En cette étape de carême, c'est un très beau thème, celui de la soif, qui nous est proposé. La soif, c'est le désir, c'est le langage du cœur, la soif. C'est la soif de Dieu. Et le carême est fait pour aiguiser notre soif. Notre soif doit être d'amour, notre soif doit être non seulement tournée vers ce monde, que la justice y règne toujours davantage, que l'homme puisse y prospérer et non pas y errer ou y combattre, mais elle doit être aussi notre espérance tournée vers le futur, au-delà de ce monde, vers l'éternité. Le désir de Dieu, c'est tout cela, qu'il vienne aujourd'hui habiter en nous, avec nous, et qu'il nous porte avec lui, au-delà de ce jour, dans cette éternité. L'eau du rocher avec Moïse, c'est un épisode célèbre, ça, de l'Exode. On imagine très bien tout un peuple, là, errant dans le désert, assoiffé. Et au milieu des rochers, eh bien, Moïse reçoit cet ordre de Dieu d'en choisir un, de le frapper avec son bâton de commandement avec lequel il avait ouvert les eaux de la mer Rouge, et il en sort une source jaillissante, une source d'eau pure. C'est vrai que c'est quelque chose de fabuleux quand on y pense, matériellement parlant. Mais c'était déjà un symbole du Christ. Le rocher, c'est le symbole de Jésus, c'est le symbole du cœur de Jésus. Le bâton, c'est le symbole de la foi. Et il nous faut, nous, apprendre à frapper, non pas brutalement, mais à frapper à la porte du cœur de Jésus par la foi, avec le bâton de notre foi, afin d'obtenir l'eau et le sang qui s'écoulent de ce cœur sacré et qui nous désaltère. L'eau pour nous purifier, le sang pour nous communiquer la vie. Parce que nous ne pouvons pas recevoir la vie sans être préalablement purifiés. Purifiés du péché. Le péché, c'est une chose très grave. On est, au niveau de notre conscience, toujours bien en dessous de l'évaluation normale du péché. Le péché, c'est quelque chose qui communique la mort éternelle. C'est inouï, le péché, dans sa puissance, dans son horreur. Il faut donc être purifié par l'eau, puis vivifié par le sang de Jésus. La soif, donc, c'est le désir de Dieu, et c'est la grande épreuve du désert. C'est le grand thème du carême. Nous devons apprendre à avoir soif. Si nous n'avons pas soif, spirituellement parlant, bien sûr, eh bien c'est que le carême, il est raté, notre carême. Nous devons renouveler notre désir de Dieu, et d'une façon aiguë. Le Christ est toujours avec les croyants. Au désert, eh bien, c'était Moïse qui était son image. C'est lui qui attirait Dieu auprès des croyants, du peuple des croyants. Aujourd'hui, grâce au Christ, grâce à la nouvelle alliance, nous avons beau être dans le désert de ce monde, eh bien, nous trouvons toujours, eh bien, auprès du Christ, le chemin pour nous désaltérer, pour recevoir cette eau vive, cette eau jaillissante en vie éternelle, dit Jésus à la Samaritaine. La Samaritaine, ce dialogue avec cette femme, donc, qui est une croyante, les Samaritains avaient le Pentateuque, donc toute la loi de Moïse, en commun avec les Juifs, parce que autrefois ils avaient reçu, ils avaient été constitués en tant que peuple après l'exil du royaume du Nord, et avec autour de cinq religions, c'est les Saintes Maries dont parle Jésus, cinq religions différentes, c'était le thème de l'exil, l'envahisseur. Je me souviens plus son nom. L'envahisseur avait exilé la population juive et avait repeuplé la Samarie avec cinq nations différentes, avec des idoles, donc des dieux différents. Et puis il avait fallu ramener un prêtre juif parce que des bêtes fauves décimaient la population et donc on avait jugé que le dieu local, le vrai dieu, était en colère et qu'il fallait le calmer en lui maintenant un lieu de culte. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien le Pentateuque avait été donné à toute cette population et ils avaient la même foi que les juifs. Ils n'avaient pas les prophètes en revanche, hein. Mais ils avaient le principal, ils avaient la loi de Moïse. Donc c'est une croyante. Mais Jésus tout de suite la lance, il connaît cette femme, il la lance sur le terrain des traditions religieuses, puisqu'il y a une différence là. La femme, elle dit que le critère, c'est l'ancienneté. Les Samaritains ont décidé de revenir au culte des patriarches, autour du puits de Jacob, par exemple. Et les eaux, c'est le symbole des valeurs religieuses. Donc, boire au puits de Jacob, c'est boire à la spiritualité patriarcale. Et en ce sens, elle explique comme ça que la démarche de son peuple, c'est théologiquement, c'est mieux que les juifs, puisque c'est plus ancien, ça remonte au-delà de Moïse. Moïse, c'est bien après les patriarches, hein, c'est la sortie d'Égypte, tandis que les patriarches, c'était avant l'entrée en Égypte. Et donc, que le lieu est bien plus sacré que Jérusalem, qui a été fondée bien plus tard par les rois d'Israël, c'est Salomon qui a construit le temple, et David qui avait choisi la ville. Jésus répond, et à cela, une fois qu'il a lancé le débat là-dessus, il invite la Samaritaine à réfléchir donc sur la véritable nature de ce qui est vrai. Est-ce que c'est ce qui est antérieur ou ce qui est postérieur ? Le dépassement des divisions religieuses se réalise dans le Christ. C'est ce que Jésus dit. Adorez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais adorez Dieu en esprit et en vérité. Et non plus dans un lieu matériel, mais dans un lieu spirituel qui est l'âme. C'est là que le Père recherche les véritables adorateurs. Et ce n'est pas un critère d'ancienneté. Il corrige d'ailleurs la Samaritaine en lui disant que le salut vient des Juifs. C'est pas parce que c'est ancien que c'est meilleur. La preuve, le Christ arrive en dernier. Or, c'est lui qui apporte le meilleur. Le dépassement des divisions, seul Jésus peut le réaliser. Et vraiment, le christianisme, c'est l'aboutissement religieux de toute recherche de la vérité. Il faut en être convaincu, sinon il faut chercher encore ailleurs et au-delà, mais ce n'est pas la peine. Ailleurs et au-delà, au-delà ça n'existe pas. Ailleurs, ce serait soit les Samaritains, soit les Juifs, par exemple, pour reprendre le texte de la Samaritaine. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se convertissent à l'islam. Mais théologiquement, c'est une régression, ce n'est pas du tout un progrès. La plupart du temps, c'est toujours pour des raisons secondaires. De même, les conversions au protestantisme ou encore à autre religion, bouddhisme, que sais-je. Souvent, c'est parce que les communautés sont plus structurées humainement, c'est plus organisé, les gens se sentent moins seuls, mieux pris en main. Vous voyez, des critères totalement secondaires qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui sont seulement en relation avec finalement la notion de bien-être, d'accompagnement, de prise en main individuelle, de consoler, de rassurer. Mais on n'est pas dans la recherche de la vérité. Le désert, c'est un lieu de vertige. C'est pas du tout un lieu de repos. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des haltes bienfaisantes. Mais l'itinéraire, lui, c'est vraiment un véritable combat, une véritable errance pour découvrir la vérité, la terre promise. Mais le christianisme est vraiment l'aboutissement de la vérité avec un grand V. L'adoration en esprit et en vérité, c'est ce que le Christ a enseigné, c'est ce qu'il nous enseigne et il nous en donne les moyens. Avec les cinq maris, donc Jésus dit à la Samaritaine qu'elle a eu cinq maris et que le sixième n'est pas son mari. Là, il fait référence non seulement à la vie privée de cette femme, donc elle cherchait le bonheur, vous voyez, même au niveau humain, elle n'arrivait pas à le trouver, elle changeait de partenaire sans cesse. Se marier, ça veut dire faire une alliance. À chaque fois, elle y croyait, elle allait se marier avec un tel. Et enfin, elle allait être heureuse, et puis ça ne marchait pas, pour une raison ou une autre. Et le sixième homme, finalement, elle s'est lassée, elle n'y croit même plus. Bon, elle est avec lui, mais elle ne se marie même pas. Et le bonheur, finalement, elle se dit, elle baisse les bras, c'est pas possible. Et effectivement, Jésus, le véritable époux, est là pour lui montrer le vrai chemin. C'est aussi une histoire, l'histoire du peuple de la femme, donc les cinq nations qui ont peuplé la Samarie avec leurs cinq dieux, leurs cinq idoles, qui sont les cinq maris. Mais le sixième, c'est le culte à Dieu. Et il n'était pas l'époux, le Dieu véritablement officiel de la Samarie, même si le texte du Pentateuque était bien officiel. Mais finalement, le cœur des Samaritains était partagé encore avec beaucoup de, au moins avec cinq idoles. Mais c'était le cas aussi en Israël. Et Jésus dit, choisissez une bonne foi votre Dieu, le Dieu vrai, le Dieu saint, le Dieu compatissant et surtout le Dieu tout-puissant. Et ce Dieu-là, rejetez tous les autres. Débarrassez-vous de toutes les idoles dans lesquelles vous trouvez votre confiance, que vous mettez toujours de côté au cas où, pour avoir une sortie de secours si ça ne marche pas avec Dieu. Jésus nous dit que nous sommes pareils. Dans notre histoire personnelle, on rejoint toujours un universel, c'est-à-dire le milieu dans lequel on a grandi, la nation ou la culture dans laquelle on a été élevé. Finalement, on est toujours conditionné. Il faut toujours se libérer des conditionnements ambiants, culturels, voire même familiales, pourquoi pas, pour trouver le vrai chemin, pour trouver le seul Dieu et le choisir véritablement comme unique époux au sens religieux du terme. Jésus est toujours au-delà des conditionnements sociaux et psychologiques de toutes sortes. Il nous demande de faire l'effort, au carême particulièrement, eh bien de faire une critique des traditions, une critique de ces traditions qui structurent notre manière d'être, d'agir, de penser, pour vraiment le mettre, lui, au milieu et au-dessus de toutes ces traditions. La période du carême est une période de relecture critique de notre foi également, afin d'accueillir de mieux en mieux le Seigneur. Et qu'est-ce que nous aurons en échange? Nous aurons les eaux vives, nous dit Jésus. La possession de la vérité, la possession de la vie. Et avoir Jésus, c'est avoir la vie. Et la vie se manifeste par une immersion dans la paix. Intérieurement, il y a une grande paix intérieure qui nous habite. Et ça nous communique aussi une grande force pour lutter contre les tentations. Parce que, en cette vie, nous aurons toujours à repousser l'adversaire du Christ, cet antéchrist dont parle l'Écriture. Celui qui veut toujours nous détourner du chemin de la vérité. Alors la femme s'agrippait à des vérités qui étaient à sa portée, religieusement d'une part, la religion samaritaine, mais aussi dans sa vie personnelle avec ses maris successifs. Et Jésus vient la libérer de cette errance, de ce relativisme. Il vient lui ouvrir les yeux et il vient se montrer à elle comme le véritable Messie, celui qui détient la vérité, celui qui communique la vérité. Alors, ben, laissons venir Jésus, soyons des Samaritains et des Samaritaines, avides et assoiffés, nous aussi, et laissons le Seigneur eh bien, nous donner cette eau qui, une fois qu'on la boit, on n'a plus jamais soif.